Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Émilie Julia.
Chers internautes, nous fêtons cette année les 400 ans de Québec et cela ne pourrait se faire sans revenir sur l'histoire et sur le navigateur Samuel de Champlain, père de la Nouvelle-France, personnage emblématique. Nous accueillons aujourd'hui pour en parler Madame Raymonde L'Italien. Merci Madame de nous faire l'honneur d'être parmi nous. Vous êtes québécoise, vous êtes conservateur honoraire des archives du Canada et spécialiste de Samuel de Champlain. Vous avez dirigé un ouvrage qui s'intitule « Champlain, la naissance de l'Amérique française » au Nouveau Monde Édition et Septentrion à Québec. Comment parler de Samuel de Champlain ? C'est une personnalité tellement emblématique, tellement large et qui a occupé beaucoup de livres et d'esprit ces dernières années. Nous fêtons cette année les 400 ans de Québec. Que dire dans un premier temps sur sa personnalité ? Qu'est-ce qui l'a poussé à naviguer jusqu'à l'autre bout de l'Atlantique ?
Oui, on a beaucoup parlé de Champlain à diverses époques d'ailleurs. Et je crois qu'on peut dire dans l'ensemble que ce qu'on dit sur Champlain est souvent plus révélateur d'une époque que de Champlain lui-même. Alors, je pense que l'important, c'est de retourner aux textes eux-mêmes de Champlain qui sont les plus révélateurs, beaucoup plus que tous les textes qui auraient pu être écrits après coup sur Champlain lui-même. Alors, Champlain, ce qu'on sait justement par ses récits de voyage, dont la plupart ont été publiés de son vivant. Bon, Champlain, c'est un homme du début du 17e siècle. Il serait né vers... On n'a pas la date exacte de sa naissance. On la situe entre 1575 et 1580. Il serait né en Charente-Maritime, à Brouage. C'est une petite ville fortifiée qui était à l'époque un port et qui s'est ensablé depuis, une petite ville fortifiée qui avait été construite dans les années 1550 de façon à pouvoir faire concurrence à La Rochelle. À La Rochelle, qui était entre les mains d'armateurs d'origine protestante. Et Brouage aurait été fondé pour concurrencer La Rochelle. Et en fait, Brouage, à la fin du 16e siècle, à l'époque où Champlain grandissait, était un port extrêmement actif qui recevait des bateaux de toute l'Europe, de l'Amérique du Nord, des bateaux de pêche, des bateaux des pêcheurs qui rapportaient leurs poissons, qui rapportaient des fourrures, qui pouvaient rapporter aussi de la baleine à l'occasion. Et au meilleur moment de la vie de Brouage, il pouvait y avoir une bonne dizaine de milliers de personnes qui se côtoyaient. Donc, Champlain de Brouage a grandi dans un milieu maritime. Il a été imprégné de la vie de la mer dès sa petite enfance. Son père était un capitaine de navire, Antoine Champlain, qui allait faire la pêche à la morue, dans le golfe du Saint-Laurent, Terre-Neuve, en Acadie. Son oncle, le frère de sa mère, était un marin aussi, un capitaine de navire. Champlain l'a accompagné dans plusieurs voyages et il s'est embarqué sur un de ses navires à la fin du 16e siècle, en 1598-99, pour aller au Mexique et aux Antilles. Donc, Champlain, avant d'arriver à Québec, était un marin qui était déjà imprégné de la vie maritime.
Qu'est-ce qu'il révèle de l'époque ? Quelles sont les grandes lignes de cette époque ? Qu'est-ce qu'il apporte comme connaissance et comme point fort de cette époque ?
Ce qu'on connaît le plus de ses connaissances de l'époque porte sur la navigation.
Et époque de marchands, commerçants.
C'est une époque de commerçants. Et il connaît très bien les méthodes de navigation. Il connaît très bien les mesures de l'hydrographie. Il sait très bien, dès ses premiers dessins, au moment de son voyage de 1603 à Tadoussac et à Québec, il sait très bien relever les profondeurs d'eau, dessiner les ports, les reliefs, les habitations qui s'y trouvent. Il est formé à ce travail de Claire, plus que de Claire. On l'a dessiné comme peintre. Il avait appris le métier de dessinateur. Il savait dessiner des cartes.
Cartographe?
Cartographe.
Il a quel âge?
S'il est né vers 1575, 1580, bon, il a une vingtaine d'années à ce moment-là.
Tout ça juste à une vingtaine d'années?
Oui, parce qu'il existait, dans la plupart des petites villes portuaires, ce qu'on appelait les petites académies, qui étaient réservées aux enfants des bourgeois ou des capitaines de navires. Apparemment, Champlain a suivi ses classes dans une de ces petites académies. Il y en avait à Brouage, à Marennes, et il aurait appris son métier à la fois par la fréquentation des marins et par ses écoles.
Qu'est-ce qui lui donne envie de faire ce métier?
Je pense que c'est par les gens qu'il fréquente chez lui, sa famille. Il a vu certainement son père partir à Terre-Neuve et revenir avec des bateaux chargés de poissons, peut-être probablement de fourrures, rapporter ce qu'il a vu. Bon, et puis quand les marins partaient à Terre-Neuve, le golfe du Saint-Laurent, en Acadie, il faut dire qu'ils y allaient à la meilleure période de l'année. S'ils partaient vers ce qui est aujourd'hui la Nouvelle-Écosse, l'île du Cap-Breton, il s'y trouvait en avril, mai, juin, au moment où il fait beau, tout pousse très rapidement. On n'est pas en plein hiver. Et alors, ils en revenaient certainement avec une image qui était favorable. Et puis, il y avait un vieil objectif qui faisait rêver tous les navigateurs. C'est, en naviguant vers l'ouest, trouver une voie qui les mènerait vers la Chine. Et ça revient longtemps dans les récits de voyage de Champlain, trouver la route vers la Chine. Plus il s'est enfoncé dans le fleuve Saint-Laurent, vers les Grands Lacs, plus il était persuadé qu'il se rapprochait de la Chine. Comme d'ailleurs tous les autres explorateurs qui vont continuer à traverser le continent jusqu'aux montagnes rocheuses, ils recherchent toujours un trajet vers la Chine, qu'il éviterait aux navigateurs d'aller faire le tour de l'Amérique du Sud ou de l'Afrique du Sud.
Comment ils connaissent la Chine? Qu'est-ce qui leur donne autant envie d'aller en Chine? Qu'est-ce qui les fascine autant avec la Chine?
C'est les richesses de biens précieux, de soieries, d'épices, qui ont une grande valeur commerciale et qui représentent un mode de vie, une civilisation qui est, en Europe, attribué à une société de haut niveau, une grande bourgeoisie, la noblesse, qui peuvent s'offrir ces produits prestigieux. Et puis, on connaît les objets de porcelaine qui sont rapportés par la Compagnie des Indes. Rochefort est un des lieux d'où reviennent les bateaux des Indes aussi. Alors, on cherche toujours un moyen d'accéder aux Indes, à la Chine, sans le voyage qui peut durer 6 mois.
À quel âge Samuel de Champlain part pour la première fois?
Il part, enfin, le premier voyage qu'il ait fait, c'est pas vers l'Amérique du Nord, ce serait avec son oncle, vers Quimper, où, avec son oncle, ils sont allés chercher les Espagnols qui avaient passé quelques années à Quimper, avec la Ligue, pour les ramener en Espagne. Champlain s'embarque avec son oncle. Et ça, c'est en 1595. Donc, c'est le premier voyage qu'on lui connaît, en 1595.
Il n'a même pas 20 ans.
Ah non.
Quand est-ce qu'il part au Québec, pour la première fois? À Québec.
Il part en 1603. Et en 1603, il s'embarque sur un bateau au Havre, avec un capitaine de navire qui lui pont gravé, qui est allé, lui, plusieurs fois à Québec. Et il s'embarque principalement pour aller faire la traite des fourrures à Tadoussac. À chaque printemps depuis peut-être chaque quartier, les Autochtones se regroupent à Tadoussac, notamment, peut-être en d'autres lieux aussi, mais Tadoussac devient le lieu de rencontre le plus mentionné. Les Autochtones se rencontrent à Tadoussac et attendent les bateaux français qui viennent échanger les fourrures que les Autochtones ont pu collecter durant l'hiver. et les échanger contre des objets que les Autochtones apprécient, c'est-à-dire des objets de fer manufacturés en Europe, des couteaux, des armes, des chaudrons, toutes sortes d'objets qui leur sont utiles et qu'ils ne produisent pas. Et puis aussi des tissus, des bijoux qui, disons, vont agrémenter un peu leur relation sociale. Alors, Champlain s'embarque sur ce bateau comme simple voyageur. Il n'a pas de mandat. Et il observe. Il va aller jusqu'à Québec. Québec, qui est déjà nommé de cette façon, on le sait par une carte d'un cartographe diepois, de Nicolas Levasseur, une carte de 1601. Donc, ça suppose que c'était un lieu qui était déjà connu et fréquenté par les pêcheurs, notamment les pêcheurs normands. Donc, Québec est déjà aussi un des lieux d'échange où il y a des campements indiens. Champlain y arrive. Il désigne ce lieu, comme dans son récit de voyage, comme un lieu où ce serait bien d'installer une population, enfin, de construire un village, une ville, parce que c'est un lieu d'abord qui est bien protégé à l'intérieur du Saint-Laurent. Il y a un cap. Certains l'ont désigné comme le Gibraltar de l'Amérique du Nord. Il y a un cap, ce qui fait que les habitants peuvent se servir du cap pour voir s'il n'y a pas des ennemis qui arrivent par le fleuve. Et puis, c'est un lieu qui peut aussi donner accès à des terres cultivables à proximité, sur les rives de la rivière Saint-Charles et à l'île d'Orléans. Donc, Champlain identifie Québec comme un lieu d'installation intéressant. Et puis, il continue. Il va jusqu'à ce qui est Montréal maintenant. Il va jusqu'à Montréal et de même, il apprécie le site de Montréal pour ses avantages et principalement parce que Montréal est au carrefour de plusieurs cours d'eau qui donnent accès à d'autres régions du pays d'où il trouvera peut-être la route pour la Chine.
Il y retourne souvent? Combien de fois?
Champlain a fait une douzaine d'allers-retours. Il a fait 23 traversées de l'Atlantique, c'est-à-dire que la dernière traversée était dans un seul sens, en 1634, puisqu'il est mort à Québec en 1635.
23 traversées en combien de temps?
Eh bien, de 1603 à 1635, 32
ans. En
32 ans.
23 traversées, ouais, de l'Atlantique. Comment est-ce qu'on fait à l'époque 23 traversées de l'Atlantique en finalement si peu de temps? Parce que ça équivaut à pratiquement une par an.
Oui. Alors, ça veut dire qu'il y a des historiens qui ont calculé de façon assez précise le temps qu'il aurait pu passer à Québec durant toutes ces années. Ben, il aurait passé à peu près la moitié de son temps, pas plus, à Québec, enfin, en Nouvelle-France, dans la région de Québec. En fait, ce pourquoi Champlain s'est déplacé autant, eh bien, c'est pour le comprendre, il faut savoir dans quel cadre se situait le projet de fondation d'un établissement à Québec. Champlain, évidemment, n'était pas seul, n'était même pas la personne, je dirais, la plus importante pour créer une colonie. Il y avait des personnes autour de lui qui étaient très proches de la cour, d'abord du roi Henri IV. Henri IV avait une volonté très nette de développer un empire en Amérique du Nord qui pourrait, d'une certaine façon, sinon concurrencer, du moins se positionner par rapport aux empires espagnols et portugais. Il y avait un voisin français de Champlain qui s'appelait Pierre Dugas-Demont, qui était originaire de Royan, qui lui était un noble proche du roi. C'était un gentilhomme de la chambre du roi. Et Pierre Dugas-Demont était vraiment la personne qui a aiguillé Champlain comme, disons, le gestionnaire, l'administrateur, celui qui va être capable de mettre en place un établissement et qui va pouvoir à la fois faire en sorte de développer le commerce et aussi d'établir une population. Alors, ce qui va faire vivre Québec, ça sera le commerce. Et le commerce, il va fonctionner par des compagnies. Il y aura donc des compagnies Les premières sont sous la responsabilité de Pierre Duguay-Demont. Il y aura des compagnies de commerce qui vont se créer, qui vont se succéder et qui vont financer l'installation. Parce qu'il faut payer pour avitailler les navires, recruter l'équipage et recruter des gens qui vont pouvoir rester sur place pour entretenir les locaux et rester en contact avec les autochtones pour collecter les fourrures. Donc, ce sont les compagnies qui vont avoir ce qu'on va appeler le monopole de la traite. Le monopole de la traite, qui est supposé leur rapporter des bénéfices, avec lesquels ils vont fixer une population. Donc, Champlain fait des allers-retours en France pour présenter les rapports de situation, recruter des partenaires commerciaux. Il se marie en France. Il ramène sa jeune épouse au Canada.
Elle n'y reste pas. Alors, sa jeune épouse a 12 ans.
Elle a 12 ans. Il va attendre qu'elle ait 14 ans pour l'épouser vraiment, dit-on.
Et lui, il a quel âge? Bien, lorsqu'elle a 12 ans.
Il l'épouse en 1611, 1612, donc il aurait une trentaine d'années.
La différence, c'est, hein?
La différence est considérable. Ce n'était pas exceptionnel à l'époque.
Donc, son épouse a 14 ans, il peut l'épouser. Et qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, ceci étant dit, même si ce n'était pas exceptionnel qu'il y ait une telle différence d'âge, il y a quand même eu des petits problèmes, puisque la jeune Hélène a fugué très peu de temps après son mariage. Elle a quitté la demeure de son mari. Elle est retournée chez ses parents, qui n'étaient pas du tout contents, qui l'ont déshéritée.
Elle ne voulait pas se marier?
Elle était mariée. Elle ne voulait plus rester avec son mari.
Elle ne voulait plus rester avec lui?
Oui. Les choses se sont apparemment arrangées puisqu'elle a décidé par la suite, en 1616, de partir avec lui à Québec. Elle y est restée 4 ans. Elle s'est ennuyée.
La vie était dure sur place.
Oui, et puis elle a cherché pendant ces 4 ans à Québec à enseigner un peu le français, la religion aux petites indiennes. C'était pas très gratifiant parce que tout le monde répète que les petites indiennes, aussitôt après avoir été formées à l'école des Français, aussitôt qu'elles le pouvaient, retournaient très vite dans leur famille et oubliaient le plus vite possible tout ce qu'elles avaient appris. Donc, c'était pas très gratifiant. Alors, elle est rentrée en France en 1624 et elle n'avait pas voulu y retourner.
Madame l'Italien, je vous propose de faire une petite pause. On se retrouve dans quelques instants. Madame l'Italien, en combien de grandes périodes peut-on départager la vie de Champlain?
Alors, il y aurait cette première période de fondation. On a parlé de la fondation, on a parlé de Québec. Mais faut pas oublier non plus qu'après son premier voyage de 1603, il a fondé un premier établissement en Acadie. En Acadie, sur l'île de Sainte-Croix d'abord, et ensuite à Port-Royal. Établissement qui a continué de vivre. Même si Champlain et son principal responsable, Pierre Duguay-Demont, ont décidé de fonder un établissement permanent plutôt à Québec qu'en Acadie. Québec leur paraissait plus sécuritaire, sur le plan militaire du moins, et aussi plus généreux sur le plan commercial, au carrefour de plusieurs voies navigables. C'était plus conforme au projet de commerce qu'il pouvait avoir sur place que de maintenir le projet de l'Acadie. Donc, il y a la période de fondation que je situerais jusqu'à 1608, jusqu'à la fondation du poste de Québec. Ensuite, il y aurait la période d'exploration de 1608 à 1616, et on pourra y revenir, et ensuite la période d'administration, de 1616 à 1627-28, au moment où Québec est pris par les Anglais. La France va récupérer Québec en 1632 par le traité de Saint-Germain-en-Laye. Alors, et à partir de cette date, le peuplement va vraiment démarrer, donc à la toute fin de la vie de Champlain. Donc, cette dernière période serait plutôt une période de turbulence militaire et de reprise en main.
Parlons de l'époque de l'exploration, puisque Champlain était un grand explorateur. Qu'est-ce qui le poussait à explorer? Qu'est-ce qui lui plaisait dans ses explorations? Et qu'est-ce qu'il a découvert?
Champlain, comme on l'a vu tout à l'heure, était fasciné par la perspective de trouver le chemin pour la Chine. Et il était persuadé que les Français avaient fait le bon choix en s'installant sur les rives du Saint-Laurent parce qu'on avait, personne n'avait encore trouvé vraiment les sources de ce fleuve. Donc, aussitôt que Champlain a pu avoir des indications suffisantes de la part des Indiens pour pouvoir envisager des voyages vers l'ouest, il est parti. Il a fait un très grand voyage sur 2 ans, en 1615-1616, où il est allé jusqu'au lac Huron, Érier. Il a pu situer, évaluer la dimension assez juste de 3 des 5 grands lacs, ce qui est quand même pas mal, en un seul voyage. Alors, ce voyage l'a conforté dans l'idée que le Canada pouvait prendre une expansion importante vers l'ouest. Il y avait des voies navigables qui permettaient de poursuivre le commerce des fourrures et il y avait aussi des minerais, ce que tous les Européens cherchaient, surtout après que les Espagnols et les Portugais aient trouvé des mines d'or et d'argent en Amérique du Sud. La France, l'Angleterre cherchaient la même chose en Amérique du Nord. Champlain avait ouï dire par les Indiens qu'il y avait des mines quelque part. Il a au moins trouvé des minerais de fer et de cuivre, qui sont des mines qui sont toujours plus ou moins exploitées. Évidemment, je ne sais si les Indiens étaient conscients qu'il y avait des mines de diamants et d'or dans le nord du Québec et de l'Ontario. Ça a été révélé par la suite. Mais Champlain y croyait aussi qu'il y avait des mines d'or et d'argent, d'après les dires des Indiens. Donc, les explorations étaient destinées à trouver, à essayer de repérer les richesses potentielles et à continuer de persuader le roi, la cour, qu'il fallait vraiment investir dans ce pays et qu'il y avait lieu d'y développer un empire. Le terme d'empire revenait à l'occasion dans les textes de Champlain. Il a été repris à de nombreuses occasions par les gestionnaires de la Nouvelle-France par la suite. Mais c'était dans la perspective de créer un empire que Champlain cherchait à intensifier la mainmise française sur le territoire.
Est-ce qu'il était attiré par la nature?
Alors justement, on connaît peu de choses de la mentalité de Champlain, disons de sa vie personnelle, intime. Mais on l'a surpris à plusieurs occasions à s'émerveiller devant la nature, à décrire très minutieusement ce qu'il voyait, certains crustacés de la rive atlantique. Et dans ce voyage d'exploration de 1515-1516, il s'émerveille tellement devant un oiseau aux multiples couleurs qu'il s'égare et les Indiens vont mettre 24 heures à le retrouver. Il rapporte lui-même cet épisode dans ses récits de voyage. Alors, il reste que pour apporter autant de fidélité dans la description de ses voyages et de la nature, il fallait qu'il y porte un intérêt personnel.
Est-ce qu'il s'entend avec les autochtones?
Dans l'ensemble, on n'a pas relevé chez Champlain de conflits importants avec les autochtones. Il est certainement un de ceux qui a su créer des alliances avec certains groupes autochtones, en particulier les Algonquins, les Montagnais, et les Micmacs, les Abénakis. Mais en fait, ces alliances avec certains groupes lui ont aliéné d'autres groupes, c'est-à-dire les Iroquois, qui étaient les ennemis des Algonquins, Montagnais et autres. Donc, Champlain a été amené, au tout début de son séjour, en 1609, à entrer en conflit ouvert avec les Iroquois pour supporter ses alliés dans les guerres, dans leurs propres guerres. Mais avec le temps, ses alliés, les alliés des Français, sont restés parfaitement fidèles à Champlain. Et les ennemis sont toujours restés des ennemis.
Est-ce qu'il a rencontré beaucoup d'obstacles pendant ses voyages et ses explorations? Est-ce qu'il a dû faire face à des moments très durs qui auraient compromis ses projets?
Bon, en dehors des obstacles géographiques, climatiques qu'on connaît bien et qui avaient été aussi des obstacles pour ses prédécesseurs, c'était quand même important puisque lors des premiers hivers, plus de la moitié des membres des expéditions mouraient du scorbut. Ça, c'est connu. Maintenant, l'autre obstacle, c'était la concurrence des voisins. Les voisins, c'était les Hollandais et les Anglais. Alors, la prise de Québec en 1627-1628 par les Anglais, c'était le moment où Québec a failli passer sous l'autorité sous laquelle elle passera un siècle et demi plus tard. Mais c'est passé bien près. Et à ce moment-là, Champlain n'a pas été le seul, mais a quand même joué un rôle très important dans le règlement du problème, puisqu'il est allé lui-même à Londres négocier avec l'ambassadeur de France à Londres pour la reddition de Québec à la France. Et ça a réussi. Alors ça a probablement été l'obstacle le plus important. Bon, un autre obstacle était de trouver toujours les crédits et les appuis politiques pour continuer d'investir dans une colonie qui, finalement, comparée aux colonies du Sud, les colonies américaines qui devenaient déjà très prospères, Boston, la Virginie, eh bien, c'était quand même un défi assez important à relever que d'arriver à persuader ses sponsors de continuer à investir dans cette colonie. Alors, là encore, il y est arrivé, peut-être pas de façon spectaculaire. En 1627, au moment de la prise de Québec, il y a à peu près 28 habitants français à Québec. C'est vraiment très peu. Et en 1636, il y en aura 400. Donc, les premiers contingents sont arrivés, mais c'est encore très peu. Mais il reste que Champlain a quand même réussi à relever les défis qui lui ont été posés, c'est-à-dire à maintenir hors de l'eau la tête des premiers colons.
Est-ce qu'il était un homme politique?
Certainement, puisqu'il a su rester à proximité des gens de pouvoir. Ça, c'est évident. Il a rencontré plusieurs fois les rois successifs, Henri IV, Louis XIII, Catherine de Médicis. Il est resté très proche de personnages très près de la cour. Au départ, c'était Aymar de Chatte qui était gouverneur de Dieppe, amiral du Ponant. Ensuite, c'était Pierre du Godemont qui était gentilhomme de la chambre du roi, qui a vécu jusqu'en 1628, qui a toujours été quelqu'un qui a soutenu l'entreprise de la Nouvelle-France. Et Champlain était en relation constante avec ces personnes. Sauf que là-dessus, on n'a pas grand-chose dans ses récits de voyage parce que ce n'était pas des voyages pour lui. Quand il rencontrait ces personnes, il présentait ses récits de voyage. Donc, il n'avait pas besoin, il n'écrivait pas pour la postérité, il écrivait pour ses supérieurs hiérarchiques.
Qu'est-ce qu'on trouve comme ouvrage de Champlain?
On a ses récits de voyage, exclusivement. Le premier qui date de 1603, son premier voyage à Tadoussac, Québec, qui s'intitule « Des sauvages », où il décrit toute sa perception, il rapporte toute sa perception des Autochtones. Et puis ensuite, on a trois éditions successives de ses récits de voyage. Et on a aussi des cartes. Ça, c'est peut-être, c'est un autre des aspects, des choses très importantes que nous a laissé Champlain. On a les cartes qu'il a relevées de toutes les régions qu'il a fréquentées, avec la toponymie, la situation des diverses tribus indiennes. Alors, ce sont des cartes qui ont fait foi pendant des années, qui ont été reprises et reprises pour être complétées par les successeurs de Champlain, mais qui sont considérées comme les bases de la cartographie de la Nouvelle-France.
Et il ne parle jamais de lui?
Très peu. Très, très, très peu. Il ne va jamais parler de ses maladies, de ses états d'âme. Il écrit un reporter, un journaliste. On ne s'attend pas d'un journaliste qu'il rapporte ses états d'âme, quand il est grand reporter d'une guerre ou d'un conflit quelque part. Champlain a ce style, qui est finalement peut-être très neutre, mais très moderne, je dirais.
Qu'est-ce qu'il aura apporté à Québec ? On sait que Jacques Cartier a apporté tout l'aspect marchand. Est-ce que Champlain aura apporté finalement la pérennité de cette ville ?
La pérennité, certainement. Et je pense qu'un autre des apports de Champlain, ça a été d'ouvrir Québec au reste du territoire. Parce que Champlain a permis à ce lieu, qui était presque rien, 400 habitants juste l'année suivant sa mort, Champlain a permis à ce lieu d'être la capitale d'un véritable empire en Amérique du Nord. 60 ans plus tard, à la fin du 17e siècle, la Nouvelle-France couvrait les trois quarts du continent, de la baie d'Hudson à la Louisiane, de Terre-Neuve jusqu'au Grand Lac, et on anticipait qu'on pouvait aller jusqu'aux montagnes rocheuses. C'était ce que la France considérait être le territoire qu'elle revendiquait et qui était son empire, et qui ne lui était pas encore trop disputé. Il le sera au 18e siècle, la France le perdra au 18e siècle. Mais à ce moment-là, Québec devient la capitale de tout ce territoire. Donc, il y a une ouverture, il y a une mentalité d'expansion, de curiosité aussi. De Québec vont partir des dizaines et des dizaines d'explorateurs qui vont parcourir tout le continent, et donc beaucoup vont y rester d'ailleurs, et vont créer une descendance. Alors, c'est une expansion, c'est une ville qui est le point de départ, une plaque tournante d'une expansion. Et c'est la présence française en Amérique du Nord. C'est pour ça qu'on a intitulé notre ouvrage « Champlain, la naissance de l'Amérique française ».
L'occupation humaine est restreinte, donc vous venez de dire. Le territoire s'appelle la Nouvelle-France. Est-ce que vous pourriez aider nos auditeurs et nos internautes à y voir plus clair entre ce qu'est le Québec, ce qu'est le Canada, ce qu'est la Nouvelle-France ?
Oui, je crois que surtout il ne faut pas confondre Québec et le Québec. Québec est un lieu qui était au départ un tout petit poste de commerce qui est devenu une ville qui a été la capitale de l'Empire français en Amérique. Cet Empire français a été désigné au départ par Verrazzano du nom de Nova Francia, Nouvelle-France, en 1524. Le nom est resté. Jacques Cartier, quand il est parti découvrir le territoire, il partait vers la Nouvelle-France septentrionale, la Nouvelle-France du Nord. Parce qu'on se souvient que Villegagnon, lui, était allé dans le sud, la Nouvelle-France méridionale, en 1555. Jacques Cartier est parti découvrir, explorer la Nouvelle-France septentrionale. Et il est entré dans un territoire dont il a compris que le nom était Canada. Il aurait compris ce nom de par les Indiens. Est-ce que c'était fondé ou pas? Le nom est resté. Alors, le terme de Canada est apparu avec Jacques Cartier en 1535, désignant en gros la vallée du Saint-Laurent. Par la suite, quand Champlain est arrivé, Champlain a eu un mandat aussi pour la Nouvelle-France et être commandant à Québec. Québec était la capitale de la Nouvelle-France. Plusieurs colonies se sont développées, l'Acadie, sur l'Atlantique, Terre-Neuve, la Louisiane et le Canada étant la vallée du Saint-Laurent, qu'avait désigné Jacques Cartier. L'ensemble forme la Nouvelle-France, Acadie, Terre-Neuve, Canada, Louisiane. Il s'est trouvé qu'au moment de la cession du Canada à l'Angleterre, en 1763, le nouveau gouvernement anglais a désigné le territoire habité par les francophones. Il l'a désigné du nom de province de Québec en 1763. Donc, à partir de 1763, on peut parler de Québécois comme des gens habitant le territoire de la province de Québec. Mais c'est une appellation de l'époque anglaise. Alors que durant l'époque de Champlain et jusqu'en 1763, durant toute la colonisation française, quand on parle de Québec, on parle de la ville, qui est la capitale de la Nouvelle-France. Le Québec n'apparaît qu'en 1763.
Merci pour cette précision. On termine sur comment peut-on s'informer sur Samuel de Champlain? Est-ce que vous auriez un site source pour nos internautes?
Alors, il y a un site qui a été mis en place en partenariat entre les Archives de France, les Archives du Canada et les Archives du Québec, qui s'intitule, en un seul mot, sans espace, archives au pluriel, canadafrance.org, où on peut trouver notamment une exposition virtuelle qui expose, qui présente des documents dans leur entier avec des commentaires historiques sur Champlain et son époque.
Voilà, pour en savoir plus. Nous vous remercions, Madame L'Italien. Vous êtes conservateur honoraire des Archives du Canada. Vous avez dirigé, donc en 2004, je le rappelle, Champlain, la naissance de l'Amérique française, que vous pouvez vous procurer sur Un Nouveau Monde Édition ou Septentrion à Québec. Ce fut très intéressant, merci beaucoup. Et je rappelle à nos internautes que vous pouvez retrouver et télécharger cette émission sur canalacademy.com. Thank you.